Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. Je crois que c'est la quatrième émission de cette année 2025. Émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions. En fait, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Et avec Hélène à l'animation. Bonsoir Hélène.
Voilà, et on est déjà en compagnie de Sandrine Malika qui va nous faire tout à l'heure son opus poétique. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir les amis.
Alors, l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre, émission tradeunionfamily.blogspot.com. Et n'hésitez pas à aller sur notre blog. Vous pouvez ainsi réécouter les émissions, avoir le programme. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Le programme de ce soir, féminicide par compagnon ou ex. L'opus poétique sera consacré à Robe d'intérieur de Maya Abu Alayat. Et ensuite, nous recevrons Camille l'extrait Briser la chaîne, misogyne de mère en fille, aux éditions Le Duc. Voilà, et c'est un titre un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, hein, mais en tout cas, le propos est très explicite. Et on termine par des informations, des communiqués, des rendez-vous. Alors, on démarre avec féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix. Un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
Alors, la semaine dernière, on a dit qu'il y avait eu 6 féminicides depuis le début de l'année 2025. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui ont été révélés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein, mais en tout cas, on n'en a pas de recensé. Donc, c'est le chiffre qu'on recense, oui, effectivement, dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France. C'est toujours un chiffre à minima, parce que de nombreuses affaires sont non comptabilisées, Elles sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Et puis aussi, il y a des affaires qui se révèlent être des féminicides, des fois plusieurs mois, voire plusieurs années après. Et c'est pour ça que de temps en temps, je vous dis, en 2022, il y a eu, alors qu'on était en 2024, par exemple, il y a eu un féminicide, parce que après enquête, on s'est aperçu que c'était un féminicide. Alors, cette semaine, pas d'augmentation du chiffre, mais ça n'empêche que nous les citons chaque semaine, quand il y en a. Nous ne les oublierons pas. Et on peut aller sur le site www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
Bonsoir. Donc, il s'agit du recueil de Maya Abou-Alayat, intitulé « Robe d'intérieur et guerre », publié à Héros Limite. Et c'est une voix qui traverse le cœur d'un quotidien où sont omniprésents la guerre et la menace de la violence. Maya Abou-Alayat est poétesse, romancière et traductrice palestinienne. Elle est née à Beyrouth et vit aujourd'hui à Jérusalem. Ce recueil, j'ai lu qu'il était, c'est plutôt une anthologie en fait, de ses trois derniers livres de poésie, La peur, Robe d'intérieur et guerre, Ce sourire, ce cœur. Donc là, je vais commencer par lire des extraits qui sont tirés du livre de la peur. Retour 1. Route numéro 6, de Tel Aviv à Jérusalem. Les chauffeurs payent pour emprunter les rues. Les bus transportent dans les deux sens ceux qui rentrent de Ramla et ceux qui reviennent de Lod avec les banderoles pour inaugurer les fêtes du prophète Salé. En sécurité, la justice marche le long de la ligne jaune et donne leur nom aux rues. Rama, rescapée du feu à 7 ans, grâce à ses pieds rapides, la sauvant du barbecue annuel des familles de Tira, s'appuie sur une béquille louée à l'hôpital Al-Bashir. Elle ne la rendra pas à la fin de la journée. Elle regarde par la fenêtre du bus climatisé, le temps le lui a appris. Les rêves ne se réalisent ni par volonté, ni par le passage des années. Les années s'égrènent comme un chapelet ou une grappe de raisin dans les assiettes des enfants et sous leur lit. Les rêves ne se réalisent pas, mais propulsent les corps. Les décisions sont prises selon les nécessités, même insignifiantes, douleurs articulaires, dépenses, grimaces des ados, humidité des murs, vieux lits de camp. Les nécessités coupent les ailes aux rêves et les jambes du droit. Et Rama, qui courait pieds nus, comme les athlètes africains aux JO de Sydney, ni Alzheimer ni la démence ne l'ont rattrapé. Mais chaque fois qu'elle soulève son corps pour humer la brise de la mer d'Haïfa, elle retient son souffle. Odeur de chair, de cheveux, d'ongles grillés. La mort, le monstre que nous avons enveloppé de récits romantiques, comme sont enveloppés les mauvais textes, de jolis mots de l'autre côté de la fenêtre. Le reflet définit presque la forme de la fin. Il n'y aura pas d'autre chance. C'est peut-être la dernière. C'est la route. Ta route numéro 6. Elle est payante. Route numéro 2. Enfin, retour numéro 2. Le soleil traverse les feuilles vertes comme un vieux lumen par une nuit sombre. La route de banane est sinueuse et dangereuse. Des accidents peuvent arriver. Une voiture ou un rocher tombé du haut vers le bas. La lueur pénètre mes yeux endormis. La miraculeuse route me ramène à Naplouse, retour d'exil de mon père, au lieu que j'ai quitté. La Mercedes à cette place, conduite par un homme brun de Jéricho, ne cesse de vibrer. Quel monde est donc ce monde? La route de Badane et des eaux froides qui donnent au bruit du jardin leur nom et remplissent de fesses les chaises en plastique, rassemblées autour de pastèques flottant à la surface de l'eau. Pour la fraîcheur, quel monde est donc ce monde entre Jéricho et Naplouse? Point le plus bas et le plus haut. Le retour, dit mon père, la larme à l'œil, blessé par un éclat dans une guerre ancienne où il portait le kaki, dormait avec un pistolet et mangeait la pastèque striée sans fourchette ni assiette. Tout le monde dans la voiture dort et a peur. Tout le monde connaît tout le monde dans la voiture. Tous ont peur, sauf le chauffeur. Brun de Jéricho, qui veut rentrer tôt pour prendre son tour dans la file des taxis longue distance. Retour 3. Sommes-nous humains? Demande le livre à la couverture jaune. Nous vivons dans les conceptions et les rêves que d'autres que nous. Dans ce que le vent a fait à l'arbre, il y a des milliers d'années. Dans les pulsions des animaux, des humains, des scorpions. Dans les ventres des baleines, les racines des arbres, l'écho des bavardages nocturnes, des habitants des cavernes. Nous errons dans les rues des architectes parmi les débris des pioches tranchantes, dans les plans des anciennes villes et le cerveau d'un vieil homme grincheux. Nos paroles sur la liberté de penser, les croyances, les terres, innocentes, font partie des conceptions. Une vis dans l'esprit de la chaise à bascule qui donne à l'univers l'éclat de la passion. Retour 4. Ils ont écrit des milliers de lettres qu'ils ont accrochées aux cordes à linge. Et quand les vents sont arrivés, ce fut comme d'habitude. Érosion et corrosion. Déplacement de lettres et de membres, de phrases. Et ce qui est trop lourd est resté là, informe. Aussi, chaque fois qu'ils cherchent la mémoire d'une orange, d'une olive, d'une vue depuis la fenêtre, ils ne trouvent pas. Ainsi se font les légendes d'érosion et corrosion, goutte à goutte. Rappel amer de la mémoire. Toi, tu ne sais pas comment est ta mère de chercher sa mémoire et trouver un cadavre. Une route pour se perdre. J'avais pensé à fuir, comme vous tous, mais j'ai peur des décollages, des ponts congestionnés, des accidents de la route et d'apprendre de nouvelles langues. J'envisage une fuite discrète qui passerait pour un simple départ. Je rangerais mes enfants dans une valise et nous partirions pour ailleurs. Mais je ne sais pas quelle direction prendre. Il n'y a pas de forêt dans cette ville, pas de désert non plus. Connaissez-vous une seule route pour se perdre qui ne débouche sur une colonie? J'ai pensé me lier d'amitié avec des animaux gentils, pour remplacer les jeux électroniques des enfants. Et avant que quelqu'un ne sacrifie quelqu'un, je veux un endroit où me perdre. Mes enfants vont grandir, leurs questions se multiplier. Moi, je ne mens pas, mais les enseignants falsifient. Je ne suis pas rancunière, mais les voisins sont invasifs. Je ne blâme personne, mais les ennemis tuent. Les enfants grandissent et personne ne pense à diffuser l'ultime bulletin d'information. Fermeture des chaînes religieuses, mise sous scellé des écoles, arrêt des tortures. Moi, je n'ose pas parler. Chaque fois que je parle, d'une chose, elle arrive. Moi, je ne parle pas. Je veux me perdre. Alors là, je vais lire un extrait tiré du recueil Robe d'intérieur et guerre. Je brûle le temps, comme le caoutchouc sur les barrages. Seul j'étouffe, seul je pollue l'air. Les cauchemars sont encore frais, attachés en filet. Et je pense au besoin urgent de vider ma vessie. Tu meurs chaque année, d'une manière différente. Cette année, je pense à ton énorme ventre, comme était fatigant de lasser tes chaussures marron, ton cœur essoufflé. Je l'ai entendu aujourd'hui dans les chansons à la radio. J'en ai eu marre de le sortir en fraude de mes complexes, mon rire, du destin de ce que j'aime, des vidéos d'enfants massacrés, de qui sera demain kidnappé, le charmant sourire, des péchés, des secrets infâmes. Je l'ai sorti en fraude, des bas nylons filés, rire discordant, combien de côtes cassées, d'offenses aux bonnes mœurs. Lucidité. J'attends que la fille courageuse d'un martyr s'arrête et nous jette au visage « Reprenez vos patries, rendez-moi mon père. » La fleur, c'est que la vie est courte, mais fend le bourgeon et fleurit. Quand elle tombe sur la rue des écoles, alors seulement arrive la joie. Toutes les minutes de silence ne ramèneront pas à la vie une seule voix. Ma vie fut pleine de gens merveilleux et de canailles. Maintenant, je ne peux plus les distinguer. J'ai vu des enfants offrir leur père à la patrie, mais je n'ai pas vu de patrie offrir un père à l'orphelin. Je veux que tout le monde vive et personne ne tombe, pas même mes mauvaises pensées, pas même tes mauvaises pensées. Peut-être que si aucun de nous ne tombait, nous nous élèverions tous à la fois au-dessus de cet enfer. La sagesse vient avec la séparation dure et cynique, accablée d'équilibre et de douleur, sans grande estime de soi, mais honnête, rationnelle, justifie la vie de théories microscopiques et pousse au long paisible sommeil, est un peu triste, ou même est très triste. Ceux qui ne vivent pas dans l'amour ou la séparation jamais ne vivent. C'est le vide massif. On peut métaphoriquement le nommer habitude. Alors, où vais-je aller ? Je ne vous dément pas. Vous avez tout apprêté pour notre mort. Linceul, rêve, acclamation, missile, haine, superstition. Vous nous avez loué des logements au paradis, inondés d'esclaves et de vin, d'or et de palais. Oh mon Dieu, ça sentait bon. Je suis même repu de l'odeur de fraises que je sens d'où je suis maintenant. Je ne vous démens pas, je suis saturée et accablée de mort. Les enfants aussi sont saturés et leurs rêves sont exaucés. Les enfants du quartier qui fuient l'école, pourchassés dans chaque rue par les voitures de police, ils sont saturés et leurs rêves sont exaucés. Je suis saturée de mort et vous aussi. Reposons-nous. Nous avons peuplé la terre. Et après chaque guerre, les filles s'amourachent du porte-parole officiel du parti. Nous perdons la guerre, arrivent les princes. Ils essuient les visages des malades et baisent leur front. Et à la fin de la visite, désinfectent leurs mains et repartent. Les vainqueurs vainquent, remplissent nos têtes de discours et de chants. Et quand la fête est terminée, reste l'enfant à qui les vainqueurs ont crié « Nous avons vaincu ». Seul, il cherche sa main gauche dans la rhétorique nostalgique. Je ne les démens pas tous, mais la guerre est finie. Quelqu'un devrait ramasser les lambeaux dans les arbres. Quelqu'un devrait arrêter d'applaudir. Quelqu'un devrait balayer le sable des rues. Je suis une femme démunie. Je vis sur un barrage. Je me réjouis de choses insignifiantes, comme passer ma journée sans voir un seul soldat, s'ennuyer. J'y écris mon nouveau roman sur le boucher qui voulait être violoniste. Mauvais, obscène, mais sa main l'a trahi pour un étincelant couteau tranchant. Toi, tu sais comme c'est triste, être démuni et vivre sur un barrage et se réjouir de choses insignifiantes, comme dépasser un poète bavard et des travailleurs fatigués portant des sacs de bananes, de goyaves et de lait ténura. Je suis une femme démunie. Je vis dans une tombe depuis des années. Jusqu'ici, je n'ai vu ni démons, ni ange, mais tant de soldats endormis. Alors c'était Maya Abou Alayat, Robe d'intérieur et guerre, publiée à Héros Limite. Les poèmes sont traduits de l'arabe par Mireille Mikhaïl et Henri-Jules Julien. Voilà, c'est vraiment des paroles, des textes très, très puissants. Voici pour la fin de cet opus poétique.
Merci à toi. Eh bien, merci Sandrine Malika pour ces beaux poèmes. En plus, tu sais à quel point je suis dans mon livre sur la guerre en ce moment.
Je me permets, c'est rapide. Il y en a un que je trouvais magnifique, il est très court.
Ben, vas-y.
Similitude. Montre-moi juste une différence, même si tu veux dire justice, même si tu veux dire douleur, même si tu veux dire histoire. Le haineux est pareil au haineux, le tueur au tueur, l'immeuble bombardé à l'immeuble anéanti, l'enfant criblé ou démembré, et la mère endeuillée pareille à celle qui attend. Montre-moi une véritable différence. Mais dans ta réponse, laisse tomber la justice. C'est le droit de ceux qui sont au mauvais endroit du monde, le droit des faibles, des opprimés, des impuissants, par le prétexte du tueur, pas la béquille du haineux, pas le glaive de l'oppresseur. Montre-moi juste une différence. Je te confierai mes enfants et je ressemblerai à tout le monde. Voilà, Hélène, c'était le dernier que je tenais à faire entendre.
Ben, merci beaucoup à toi. Je disais que je suis dans mon livre, là, puisque je le présente dans plusieurs émissions de radio, que je le présente aussi en France, dans différents lieux. Voilà, donc pour les auditrices et auditeurs, c'est La guerre contre les femmes contre la guerre, et c'est aux éditions du Monde Libertaire. Donc évidemment, ça, ce que tu viens de lire, ça résonne énormément, quoi.
Ah, de fait.
Voilà. On va parler d'une autre guerre, mais c'est une guerre contre les femmes, n'est-ce pas, Camille ?
Tout à fait.
Voilà, on est en compagnie de Camille Lextret, Briser la chaîne, misogyne de mère en fille. Alors Camille, on t'avait déjà accueilli quand tu collais. Je ne sais pas si tu colles encore.
Non, je ne colle plus.
Voilà. Mais... Alors qu'est-ce que tu fais depuis ?
J'ai continué le militantisme, le féminisme. J'ai intégré une structure féministe nationale et du coup, j'ai un poste là-bas. Donc, je continue de militer, mais on va dire de manière un peu plus institutionnelle.
Et c'est quel organisme ?
Je travaille à Solidarité Femmes.
D'accord, très bien. Bon, alors, on en parle de temps en temps de cette association. Donc, Camille Lextret, Briser la chaîne, misogyne de mère en fille, chez Le Duc.
Tout à fait.
Alors, le titre, il nous surprend quand même, je dois dire. Hein. Il nous surprend parce que... Mais ton propos est très convaincant après, hein, quand on te lit, et c'est très convaincant. Mais au début, en première impression, on se dit, ça voudrait dire que les mères sont misogynes.
Ça voudrait dire qu'encore une fois, les femmes seraient responsables de tout.
Voilà, exactement. Et qu'il y en a marre qu'elles soient toujours responsables de tout, même si on sait que les hommes font tout pour que ce soit les femmes qui élèvent les enfants et donc qui perpétuent le patriarcat, puisque de toute façon, on est dans le patriarcat. Hein. Mm-hmm. Et notre émission dénonce le patriarcat chaque fois. Voilà. Donc, c'est pas nouveau. Mais c'est ta façon d'écrire qui est très convaincante. Voilà, je voulais te le dire parce que dans un premier temps, je me suis dit oh là 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 là, on va encore nous dire que les femmes sont des vilaines.
Et bah, c'était le but aussi un peu
de provoquer.
Et puis ce livre, il est venu justement du fait que souvent je me retrouvais confrontée quand je parlais de féminisme, quand j'avais des débats féministes à soit des femmes qui disaient bah moi je suis une femme, je suis pas d'accord. Ou des hommes qui disaient bah, « moi, ma sœur, ma mère, ma grand-mère, une amie n'est pas d'accord avec ça ». Et du coup, d'avoir cet argument systématiquement de « je connais une femme qui n'est pas féministe ». Et donc, ça annulerait le féminisme et ce serait finalement l'argument facile trouvé pour justifier... le fait que le patriarcat n'est pas imposé aux femmes, c'est que certaines femmes seraient d'accord. Et donc l'idée de ce livre, c'était de se dire, ok, effectivement, il y a potentiellement des femmes qui peuvent avoir des discours qui rentrent dans des logiques patriarcales. Comment ça se fait ? Est-ce que ce ne serait pas, en tant que tel, déjà une émanation du patriarcat ? Qu'est-ce qui crée ça ? Et est-ce que ces femmes-là sont si dupes que ça, qu'on veut nous le faire croire, ou est-ce que finalement c'est aussi potentiellement une stratégie de survie, etc. C'était un peu tout ça que j'avais envie de voir dans ce livre-là, parce que c'est un angle qui me semblait pas forcément souvent traité, parce que un peu tabou, et puis parce que in fine, quand on écrit sur le féminisme au début, on a plus envie de parler de la violence des hommes, de décrypter tout ça, que de rentrer sur ce sujet-là. Mmh. Mais bon, en 2025, il y a quand même eu beaucoup d'ouvrages, donc je me disais que peut-être que ça pouvait être intéressant à ce moment-là d'évoquer cette question.
Oui, il y a déjà eu d'autres livres qui parlent de ça. Je pense aux Les femmes de droite d'Andrea Dworkin.
Absolument.
Voilà. Et puis d'autres, plutôt du côté d'ailleurs nord-américaine que française. On était dans un contexte culturel un peu différent. Et là, toi, tu t'ancres dans un contexte français, avec des situations que tout le monde peut connaître. Hein. Voilà, tu nous apprends rien sur les situations.
Non,
c'est ton analyse qui en fait que c'est intéressant. Mais les situations, malheureusement, toutes les femmes eux connaissent. Et donc ton titre, il tient dans le point d'interrogation pour moi. Misogyne de mère en fille, point d'interrogation.
Absolument.
Parce qu'avec ce point d'interrogation, ça ouvre la discussion. Sinon, on se dit, oh non, je referme tout de suite.
J'y vais pas.
Mais le point d'interrogation, il est important. Alors, quand on regarde la couverture, briser la chaîne, ça se voit jaune sur fond bleu, il n'y a aucun problème, hein, ça se voit. Misogyne de mère en fille, c'est incrusté dans briser la chaîne, hein, c'est comme ça qu'on le voit, mais le point d'interrogation nous permet d'ouvrir la discussion, c'est bien pour ça que je t'ai fait venir ce soir. Voilà, alors, tu viens de dire... pourquoi tu avais envie d'écrire, mais quel a été le détonateur pour l'écriture?
J'avais pas mal travaillé sur la place de l'espace public dans les luttes féministes, espace public au sens large, donc d'Habermas, donc c'est-à-dire aussi les médias, les réseaux sociaux aujourd'hui, et in fine la place des femmes à l'intérieur. Et donc j'avais aussi beaucoup étudié les discours qui pouvaient s'y tenir et le formatage en fait que cette gestion de l'espace public faisait. Et donc ça m'a mené en fait petit à petit à me questionner déjà moi-même sur ma notion de la liberté, mes propres limites, comment est-ce que quelque part j'avais pu intérioriser certaines injonctions patriarcales sans même m'en rendre compte, comment en fait on est tellement dans ce qu'on appelle donc de l'infra-ordinaire, c'est-à-dire un ordinaire qu'on ne voit plus, qu'on peine même à mettre le doigt sur le patriarcat et nos attitudes qui peuvent être un conformisme patriarcal. Et donc, en fait, en tirant un peu le fil de cette thématique, j'ai commencé à m'intéresser de manière générale, en fait, à comment est-ce que le patriarcat pouvait vivre en nous, faire corps aussi en nous, comment, en fait, dans nos vies, on pouvait incarner ce patriarcat, comment s'en défaire et comment aujourd'hui je jugeais l'efficacité ou non des luttes féministes telles qu'elles sont menées. Donc il y avait un peu tout ça qui était mélangé. Je pense que c'est aussi parti un peu de mon sentiment d'impuissance parfois, de me dire en fait c'est tellement partout tout le temps, et quand on commence à adopter le prisme de la déconstruction de la domination masculine et du patriarcat, en fait on se rend compte que plus on creuse, plus il y a de choses en fait, et donc j'avais envie vraiment de décortiquer un peu cette thématique. Je pense qu'il y avait aussi toute une partie de mon histoire familiale qui jouait beaucoup. Moi, j'ai une sœur jumelle et on se ressemble énormément. Et je pense que pour se différencier, enfin, pour aussi avoir un peu notre singularité, parce que c'est parfois compliqué d'avoir son altérité quand on a un
autre même.
Exactement. Du coup, on s'est un peu... mis toutes les deux à l'opposé sur l'expression de genre, c'est-à-dire que moi j'étais très très petite fille avec des couettes, je m'habillais en violet tout le temps, j'aimais pas le rose mais j'adorais le violet, je jouais à la Barbie, je sais que mon père était très anticapitaliste, donc je n'avais pas le droit d'avoir de cartable Barbie, mais je sais que j'adorais les Barbies, que c'était vraiment un monde rêvé pour moi, ces poupées-là avec des vêtements pailletés, fabuleux, enfin bref, très petite fille. Et à l'inverse, ma sœur jumelle, c'était la guerre, les chevaliers, les cow-boys, Zorro. Voilà, donc à Noël, on recevait souvent des déguisements et c'était assez marrant de voir que bah, moi, j'avais vraiment le déguisement de la princesse et elle, elle avait le déguisement du pirate ou du chevalier. Et je sais que du coup, ça m'a marqué un peu toute mon enfance de voir la différence de traitement qu'il pouvait y avoir, de voir le carcan en fait. Déjà,
vous étiez très genrée là.
Ouais,
et puis
absolument.
Aux deux extrêmes.
C'est
parce
ça.
Que vous auriez pu être... un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, mais
ouais.
Là, c'était très marqué.
Polarisé, oui, absolument.
Très marqué. Hein.
Je pense que c'était pas conscient enfant, mais qu'il y avait vraiment une recherche de différenciation. Et donc, ma sœur s'habillait ouais, qu'au rayon dit garçon, hein, et jouait qu'avec les jeux destinés, en théorie, aux garçons. Pour mes parents, ça posait aucun problème, mais pour les autres adultes, ça venait questionner quelque chose. C'était pas normal, en fait. Donc dès enfant, en fait, c'est quelque chose qui m'avait un peu marqué, cette différence genrée, ce qu'on a le droit de faire ou non, ce qu'on attend ou non d'un enfant sur ses jeux, sur ses habits, sur ses habitudes, sur sa manière d'être dans l'espace. Et ça s'est couplé aussi au fait que chez moi, c'était mon père qui avait potentiellement le discours le plus féministe, entre guillemets. Enfant, du moins, c'est la manière dont je le vivais, que la manière dont je l'analysais. C'est-à-dire qu'il a toujours un discours de « tu peux t'habiller comme tu veux ». Dans tous les cas, dans ce monde-là, tu le sais très bien, c'est pas juste. Mais tu ne seras jamais l'égal total des hommes parce que c'est le patriarcat, c'est la domination masculine. Donc en fait... de verbaliser cette domination, de l'assumer, de la dire comme structurelle dès l'enfance, bah c'est quand même pas tous les
c'est pas tous les enfants
et c'est pas tous les pères. Donc bon, j'avais vraiment ce modèle là et de l'autre côté ma mère qui allait parfois être dans un discours plus de comment dire, de censure en fait, de si tu mets cette jupe, tu mets un menton long avec si tu sors, surtout si tu rentres tard, tu prends un taxi, enfin bref, donc un peu une géographie de fait un peu dans la peur. Il y a des endroits où faut pas trop aller, c'est dans certaines tenues à certaines heures, etc.
Pour te protéger.
Pour me protéger. Mais qui en fait est aussi un discours qui finalement émane quelque part. D'un imaginaire patriarcal, parce que j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec ma mère et je lui disais, si vraiment les mères voulaient, d'un point de vue ultra rationnel, protéger leur fille, elle ne leur dirait pas, sors pas dans la rue, parce que en réalité, on le sait, les féminicides et les viols, c'est à la maison que ça se passe, hein. C'est pas dans la rue, enfin ça arrive, mais c'est quand même statistiquement plutôt au sein du foyer que les femmes sont le plus à risque. Donc toutes les mères diraient à leurs filles, sois lesbienne, tout simplement. Non pas qu'il n'y ait aucune violence dans les couples lesbiens, mais on sait très bien que l'hétérosexualité est un mode
oui,
de relation de domination.
Il y a une autre façon aussi d'éduquer, c'est de se dire, faut affronter la vie avec des ressources et donc de self-défense, enfin des choses comme ça, plutôt que de dire à une fille tu sors pas ou attention à la longueur de ta jupe, bah lui apprendre à se défendre tout
Absolument.
Simplement.
Complètement. Et puis, je pense qu'il y a aussi un rôle du patriarcat qui est d'enfermer les femmes chez elles. Donc, il y a à la fois, effectivement, ce sentiment de protection. Mais si aujourd'hui, le patriarcat tolère complètement tous les discours, justement, de protection, de dire « restez à l'intérieur », c'est bien parce que ça l'arrange. Donc voilà, il y avait aussi un peu toute cette réflexion au moment de mon adolescence, de moi, ma volonté d'émancipation, etc. Et du coup, d'être confrontée un peu à des discours de peur qui allaient impacter mon imaginaire, qui allaient créer un sentiment d'insécurité qui ne sort pas de nulle part. Hein. Mais du coup, de comprendre comment, en fait, cette transmission aussi des peurs imposées par le patriarcat, elle impacte nos vécus, elle impacte nos imaginaires et du coup, in fine, elle impacte nos choix, nos modes de vie, nos modes de pensée, tout simplement. Et je trouvais ça assez intéressant de déconstruire ça, d'en discuter aussi avec ma mère, parce que du coup, en rediscutant avec elle a posteriori, elle avait bien conscience de plein de choses. Et elle avait bien conscience qu'en me disant ça, c'était pour me protéger, c'était pas pour me confiner, c'était pas pour me brimer, mais c'était parce que elle avait peur pour moi, elle avait pas envie que je subisse des violences que elle aurait pu subir dans le passé, dans sa vie. Et donc il y avait vraiment cet aspect très protecteur de le patriarcat est un système de domination violent, donc je vais tout faire pour que mes filles subissent le moins possible ces violences-là.
Et alors quand tu disais j'ai étudié, tu as fait des études particulières au niveau universitaire ?
Ouais, moi j'ai fait des études en infocom et j'étais au CELSA et du coup j'ai fait mon mémoire de fin d'études justement sur la place de l'espace public pardon dans les luttes féministes et j'avais une spécialité communication politique. On avait quand même dans nos cours pas mal de sémiologie, beaucoup d'études du discours, etc. Donc
d'analyse du discours. Ouais. Hein, comment il est structuré, ce qu'il véhicule.
Exactement. Oui. Autant d'un point de vue purement grammatical, de comprendre la structure grammaticale d'un discours, que d'un point de vue aussi, en fait, comprendre le sens, les symboles, etc. Donc ça faisait pleinement partie de mes études de décrypter un peu le réel, la manière dont il nous est présenté, les discours, quels sont les sous-entendus derrière, etc. Donc nécessairement dans le féminisme, c'est quelque chose qu'on réutilise assez souvent.
Bien sûr. On va écouter Mathilde, martyre de la cause.
Casse l'ambiance en soirée, la terreur avec qui on peut même plus rigoler, l'hystérique qui bouffe du mec au petit déjeuner. Je suis la sorcière au bûcher, je suis la menace qui fait la une de valeur, la dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. Je suis celle qui met la fachosphère en sueur. Qu'est-ce qu'il y a, tu crois que tu me fais? J'ai été rabaissé, humilié, agressé, frappé. J'ai été vilipendé, harcelé, cancelé, catcolé, insulté, touché contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doute de ma vérité. J'ai été dégradé, déprécié, dénigré, écrasé, discrédité, méprisé, attaqué et blessé, toujours sous-estimé. Si jamais je l'ouvre pour témoigner, on chira sur ma vérité. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Avec plaisir je serai une martyre de la cause. Avec honneur je serai une martyre de la cause. Avec fierté je serai une martyre de la cause. Qui censure la culture, la matriarche extrémiste ravage en l'écriture, la délinquante véhémente que craignent les ordures. Je crache ma haine des pourritures, je suis la gynocrate assoiffée de vengeance, présomption d'innocence contre légitime défiance. Je suis la folle castratrice avide de violence, bienvenue dans la résistance. J'ai été rabaissé, humilié, dénigré, écrasé, discrédité, harcelé, cancelé, méprisé, insulté et blessé. Tu peux toujours tenter de museler, rien ne pourra jamais m'arrêter. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause.
Voilà, sur Radio Libertaire, l'émission Femmes Libres, et en compagnie ce soir de Camille, l'extrait « Briser la chaîne, misogyne, de mère en fille, chez Le Duc ». Donc, on va maintenant rentrer un peu dans ton livre. Il y a trois parties dans ton livre. La première partie, ben, c'est là... que tu prends aussi des titres qui provoquent, hein. Femme main gantée du patriarcat. Donc tu abordes le rôle des femmes dans l'éducation, des mères dans l'éducation, hein. C'est vrai que ce sont les mères qui transmettent le plus dans l'éducation. Les pères sont là en général pour
Les loisirs.
Voilà, les loisirs. Et quelques loisirs.
Oui.
Quelques loisirs. Avec les filles un peu moins qu'avec les garçons. Hein. Voilà. Et tu fais référence à l'impossibilité des girls clubs. Au contraire, des boys clubs qui sont... Mais, alors, on utilise un terme anglais, mais c'est aussi une réalité française. Hein. Y a plein de réseaux d'hommes qui permettent aux hommes sur lesquels ils peuvent s'appuyer et puis ils peuvent y compris faire carrière, quoi.
Voilà. Absolument.
Hein? Et ils sont protégés aussi. Les femmes, ben non, elles se bagarrent. Alors on n'a pas mis la chanson d'Anne Sylvestre sur les femmes qu'on a conduit à se détester. Bon,
oui.
Mais les femmes, pour arriver à un petit quelque chose, elles sont en compétition. Et alors la compétition vis-à-vis des hommes, alors là je crois que tu te décris bien, quoi. Voilà, c'est pas uniquement la compétition pour arriver dans sa carrière, dans son emploi, dans ses études, c'est aussi toujours avec le souci d'attirer l'attention des hommes.
Absolument, une bataille, hein, de l'attention pour le regard masculin. Et ça fait partie d'ailleurs de l'éducation qu'on reçoit. Hein. Dès le début, on a une éducation qui est très orientée sur le fait de devenir bonne à marier. Et donc, il va falloir comprendre quels sont les critères d'une femme bonne à marier. Donc les compétences à avoir et aussi le caractère. Ne pas prendre trop de place, ne pas être trop intelligente, rester docile, etc. Tout ça, c'est une part assez importante de l'éducation. Et l'idée, c'est de dire aux filles, bah, tu auras réussi quand tu auras un mari et des enfants, parce que le but de ta vie sur Terre, c'est ça. C'est-à-dire que comme ta destinée naturelle, ce qui fait que tu seras accompli, ce sera d'avoir un mari et des enfants. Alors, c'est extrêmement essentialisant, c'est extrêmement réducteur, c'est une vision qui est archaïque, mais qui pour autant fait toujours racine dans notre société. On le voit, ma génération, il y a de plus en plus de femmes qui expliquent qu'elles ne veulent pas forcément d'enfants. Que c'est pas un souhait. Et alors à chaque fois, c'est une levée de bouclier de comment, mais en fait, c'est la plus belle chose qu'une femme puisse faire. On nous a quand même fait croire ça, que l'accouchement était un jour merveilleux pour les femmes. Donc oui, il y a vraiment cette construction et où on nous oriente vers la satisfaction du regard masculin. Et en fait, ça fait partie des raisons pour lesquelles il n'y a pas de girls club, de club de filles, comme il y a des clubs d'hommes. C'est-à-dire que cette solidarité féminine, elle est extrêmement compliquée. Déjà parce qu'on nous berce quand même depuis l'enfance avec des récits de femmes qui s'opposent. Donc c'est difficile de voir une sororité quand en fait tous les récits nous montrent des femmes qui sont méchantes entre elles, qui se disputent, qui se critiquent dans le dos, etc.
Et alors dans l'enfance et dans l'adolescence,
oui,
parce que les séries montrent ça aussi.
Tout l'imaginaire collectif, des femmes pestent entre elles en fait.
Voilà. Et puis toute cette toute cette publicité aussi pour sexualiser les petites filles et faire qu'elles soient séduisantes.
Absolument.
L'autre jour, j'étais dans le métro avec une petite fille que j'imagine qui avait 4-5 ans et qui pestait après sa mère parce qu'elle ne retrouvait pas son rouge à lèvres à elle. Alors évidemment, c'était pas du rouge à lèvres.
Oui, c'était pas un Chanel, mais bon.
Voilà, c'était un jouet. Voilà, c'était un jouet
qui colore un peu un baume à lèvres.
Voilà, qui colore les lèvres. Je me suis dit, à 4-5 ans, elle réclame son rouge à lèvres, et c'est évidemment la mère qui en est responsable de pas retrouver ce rouge à lèvres, hein,
oui,
évidemment.
Absolument.
Elle a pas, le père était à côté, le père, on lui a pas demandé où est mon rouge à lèvres.
C'est évident. Non, mais c'est assez marquant, tous ces moments de transmission aussi, pour le coup, si on parle un peu plus de la transmission, moi je sais que j'en discutais avec des amis autour de moi, où certaines personnes, c'est leur mère qui pour la première fois les a emmenées chez l'esthéticienne à 12 ans. Enfin, c'est fou. Qui du coup ont vraiment voulu mettre en application dans le patriarcat, tu n'auras pas de poils. Et à partir de 12 ans, tu commences à devenir une femme, c'est l'adolescence, il ne faut pas que tu aies de poils. Et donc de voir comment certaines de ces règles sont vraiment transmises, et comme si c'était quelque part un moment mère-fille de qualité. Mmh. Il y avait aussi toute cette idée-là que c'est notre moment à nous, sans nécessairement avoir cette conscience que c'est le moment du patriarcat pour vous deux, ouais, mais c'est pas votre moment à vous. C'est pas nécessairement un beau moment mère-fille que de se faire une épilation mi-jambe.
Mais comment alors, tu es jeune, hein, je pense que les auditrices l'ont entendu. mais comment tes amis, enfin ton entourage, alors je parle pas professionnel, parce qu'à Solidarité Femmes, il y a déjà une réflexion, hein, sur le patriarcat. Mais comment tes autres amis, si tu en as en dehors du féminisme, comment elles te comprennent? Voilà, parce que je me souviendrai toujours du film de Sylvie Tissot sur je suis féministe, mais hein, voilà. Ça, c'était sur une génération quand même beaucoup plus ancienne. Et là, j'ai l'impression que ça a pris d'autres formes. Hein. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qui est maquillage. bon, en plus, les Barbies, maintenant, il y en a des noires, il y en a des petites, il y en a des...
une voilà. Diversité, ah, même chez Barbie.
Diversité, ils ont compris que la diversité, ils en vendaient encore plus. Plutôt qu'elles soient toutes pareilles, ben voilà. Voilà, ça prend d'autres formes, mais comment... Et tu viens aussi de dire, et c'est assez juste, qu'il y a un certain nombre de jeunes femmes qui aujourd'hui ne veulent pas d'enfants. Mmh. Jeunes femmes, et alors trentenaires, puisque c'est à 30 ans à peu près qu'on a son premier enfant, mais des femmes qui vont dépasser la quarantaine et qui n'auront pas d'enfants. Mmh. Et c'est un choix délibéré. Donc on a à la fois... ce choix délibéré de ne pas être mère, de ne pas reproduire ce que nos mères nous ont inculqué, et en même temps des sollicitations à tout berzingue, quoi.
Oui, bah, je pense qu'il y a aujourd'hui le féminisme, donc moi j'ai 28 ans, c'est d'un point de vue marketing, ça vend. C'est sûr que ça, c'est une différence générationnelle qui est énorme. C'est-à-dire que se dire féministe dans les années 80, même 90, c'était pas la même implication sociale. Quand on avait l'étiquette féministe derrière, c'était quand même plus compliqué qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui encore, on le voit, les figures féministes qui sont médiatiquement visibles s'en prennent toujours plein la figure, mais c'est plus facile... qu'à une autre époque. Et puis aujourd'hui, tout le monde peut finalement se revendiquer quelque part du féminisme. même les personnes avec qui, moi personnellement, je trouve qu'elles n'ont rien de spécialement féministe, il y en a plein qui se revendiquent féministes. Donc c'est plus facile, c'est un mot qui est devenu vraiment plus accepté. Et puis, le capitalisme a très bien compris que ça vendait très bien. Mmh. Donc on a un nombre de produits dérivés sur le féminisme qui est délirant, où on nous fait croire que la libération des femmes, finalement, passera par la consommation. Ah, on va avoir un petit désaccord sur ce sujet. Voilà, par exemple, notamment sur la libération sexuelle, on nous fait croire que la libération sexuelle, c'est l'achat de sextoy. Bah, moi, je pense que la libération sexuelle, ça passe par le fait qu'il n'y ait pas 1% des violeurs seulement qui soient condamnés et que la culture du viol soit abolie. Ça, pour moi, ce serait une plus grande liberté sexuelle que de pouvoir m'acheter des sextoys avec 25% de réduction le 25 novembre et 8% de réduction le 8 mars. M'intéresse peu comme féminisme, finalement. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette réappropriation des discours féministes par tout un tas de marques dans tout un tas d'espaces qui le rendent mainstream. En même temps, c'est vrai que... c'est pas forcément quelque chose qui infuse partout dans la société. Moi, je pense que, comme je suis féministe, je suis nécessairement, je pense, idéaliste, voire utopiste. C'est-à-dire que je pense que l'humain peut vraiment changer. C'est une foi en l'humain qui est presque aveugle. Et donc, c'est aussi beaucoup de pédagogie. Donc, je sais que avec mes copines, souvent on a des débats, des discussions, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Pour le coup, et c'est ce que je dis dans le livre, je reprocherai jamais à une femme quoi que ce soit sur l'intériorisation des normes patriarcales. Et je pense qu'il y a quand même aujourd'hui une évolution. On voit une polarisation assez forte dans la société entre les femmes qui sont de plus en plus féministes, de plus en plus engagées, de plus en plus conscientisées, et les hommes, à l'inverse, qui tendent de plus en plus vers le masculinisme.
Ça, c'est les études récentes, oui, qui montrent que chez les jeunes, les garçons sont plus réac que les filles.
Ça, et les filles sont plus progressistes.
Oui, oui.
On nous le présente un peu comme, oui, vraiment cette idée de deux choses qui s'opposent, comme si le progressisme pouvait être mis sur un pied d'égalité avec le fascisme et le masculinisme, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, c'est moins avec mes copines que je vais avoir des débats, et c'est plus avec les hommes que je vais avoir dans mon entourage, où aujourd'hui, parfois, c'est compliqué. Il y a comme un retour de bâton où, en fait, c'est tous les discours de « on ne peut plus rien dire », de « aujourd'hui, quand on est... » En fait, une inversion victimaire. Aujourd'hui, ce serait difficile quand on est un homme de draguer. Bah oui, vu que le consentement, aujourd'hui, c'est un sujet qui a de l'importance, c'est plus difficile, effectivement, de draguer quand la personne en face de toi, tu l'humanises et qu'elle a le droit de dire non. Plus facile il y a 30 ans, je veux bien les croire. Donc c'est plus en fait avec la gente masculine. Parfois c'est difficile parce qu'en fait va y avoir un ego qui rentre en jeu ça va vraiment être des discussions où chaque décryptage du patriarcat est vécu comme une attaque. Alors que c'est pas le cas, et que oui, les hommes ont des privilèges dans le patriarcat, et que nécessairement le féminisme attaque ces privilèges.
Ouais, mais ils ont quelque chose à perdre.
Oui, exactement.
Ils ont quelque chose à perdre. Ils ont à perdre leur superbe, leur fierté. Ils ont à perdre ça. Et les filles et les femmes ont à gagner de s'affirmer davantage.
Oui, la liberté.
Voilà.
Pour le coup, c'est évident, et je trouve qu'on le voit, les hommes ont aussi à perdre tout le travail domestique gratuit. Hein, et c'est pour ça que... autant d'hommes qui sont vraiment très vocaux sur le fait que moi, ma copine, elle adore me faire à manger, etc. C'est sans doute vrai, mais tu n'as jamais défendu les femmes qui ne souhaitaient pas le faire. Tu ne défends que celles qui souhaitent le faire. Peut-être que c'est légèrement biaisé.
Moi, ça, ce que tu viens de dire là, c'est, ça me fait penser à Kaufman qui avait écrit, en micro-sociologie des tas de livres, et en particulier Le Premier Matin, Le Sac à Main, voilà. Et dans Et celui que j'ai en tête après ce que tu viens de dire, c'est La Trame conjugale. Ce livre-là, chaque fois que je le relis, je suis pliée en deux. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, sur le repassage, il interviewe madame, il interviewe monsieur, dans le même couple. Bien, monsieur croit que madame aime repasser. Et madame croit que monsieur aime bien quand elle repasse. Mmh. Voilà. En fait, ils ne se parlent pas. C'est le fer à repasser, c'est le linge qui fait la trame conjugale.
Potentiellement, voilà. Madame a raison. Monsieur aime bien que son linge soit repassé. Après, est-ce que monsieur a raison?
Oui, mais elle pense qu'il attend ça. Mm. Et que si elle ne le faisait pas, elle ne serait pas sa partenaire.
Oui, bien sûr. Voilà. Après, c'est ce qu'on fait croire aussi aux femmes, c'est que c'est un don de Dieu. Une bénédiction que d'être choisie par un homme, et il faut absolument travailler aussi dur que possible pour garder un homme quand on en a un, parce que c'est lui qui va être le protecteur, c'est lui qui va apporter la sécurité financière aussi, etc. Donc il y a vraiment cette idée de il faut tout faire pour garder son homme, se plier en quatre, et donc ça vient par le fait de faire toutes les tâches ménagères, de s'occuper des enfants, de gérer la logistique du quotidien, et si on fait pas ça, alors peut-être qu'on n'est pas digne d'amour, parce qu'on n'est qu'une femme finalement et qu'on n'a pas grand chose d'autre à offrir, là où un homme, dans son essence, dans son existence même, offre déjà tout au monde. C'est-à-dire qu'un homme présent dans une pièce, c'est déjà un cadeau. Alors qu'une femme présente dans une pièce qui ne fait rien, bon, si elle est jolie, à la limite, ça peut lui donner de la valeur, mais autrement, il va falloir qu'elle s'active et qu'elle donne un sens un peu à sa présence, une utilité.
Et du coup, je reviens à la question de tout à l'heure. Dans ta génération, à toi, quand des jeunes se mettent en couple, hein, alors quel que soit le couple, mais se mettent en couple, parce que 28 ans, ça, c'est des couples qui durent un petit peu, hein, oui. Voilà. Quand ils se mettent en couple, comment ça modifie la relation, et est-ce que toi, tu le vois aussi à l'arrivée du premier enfant, par exemple, s'il y a un enfant?
Alors, c'est-à-dire, la question, c'est comment, quand ils se mettent en couple, ça modifie la relation que moi j'ai avec eux ou que eux ont ensemble?
Que eux ont ensemble et la perception que toi, tu en tires.
Ouais.
Parce que tu peux avoir une très bonne copine, voilà, qui est tout à fait au même niveau que toi dans la réflexion et tout. Elle se met avec un copain qui, bon... faisait peut-être illusion, mais en tout cas, elle se met avec ce copain-là. Et est-ce que tu vois, par exemple, ta copine se modifier? Voilà, c'est ça ma question.
Complètement. Je trouve qu'on le voit vraiment, pour le coup, là, dans les couples hétérosexuels. Mmh. C'est-à-dire que le couple je le vois aussi dans un renfermement sur la cellule à deux, dans le couple hétérosexuel. Je le vois vraiment de manière très claire chez mes amis hétérosexuels, beaucoup moins chez mes amis lesbiennes qui vont continuer à plus sortir, à plus être en interaction avec le monde. La cellule hétérosexuelle, c'est vraiment une cellule de renfermement sur soi. Et ça, c'est la première chose marquante.
Et ça va dans le sens de ce que tu dis, il faut le garder.
Exactement. Hein? Ouais. Donc va vraiment y avoir cette idée de c'est bon en fait, je suis posée, j'ai trouvé le bon. Mmh. Donc maintenant, j'ai plus besoin de faire tout un tas de choses. Donc il y a vraiment cette idée de confinement dans le couple hétérosexuel qui est franchement assez flagrant. Alors quand il y a l'arrivée d'un enfant, bien sûr, en fait, il n'y a plus d'énergie pour rien d'autre. Donc c'est évident que c'est plus difficile pour le coup, mais ça s'explique parce que quand on ne dort pas, on n'a pas forcément très envie de sortir jusqu'à 23h le soir. Et après, oui, en fait, c'est En fait, c'est compliqué aujourd'hui quand on est féministe, enfin pour les féministes qui sont hétérosexuelles ou du moins en couple avec des hommes, d'allier parfois ses convictions à son couple, etc. Je pense qu'il y a aussi parfois cette volonté de se dire en fait, j'ai pas envie de faire de toute ma vie un terrain de lutte, donc je vais lâcher prise sur certaines choses, je vais voilà, laisser...
C'est ce que tes aînés ont fait
oui,
aussi.
Oui, exactement.
C'est ce que tes aînés ont fait aussi. On s'est toutes bagarrées, enfin, dans les années 70 et ensuite, on s'est toutes bagarrées, mais à un moment donné, quand on rentre chez soi, ça va, quoi. on lâche prise un peu.
Exactement.
Bon, après... Plus ou moins, hein, ça, oui. Ça va dépendre des gens, mais et ça explique aussi le nombre de séparations, de divorces, parce qu'à un moment donné, c'est plus faisable,
non,
c'est plus tenable.
Mmh. Hein. Non, et je pense que c'est important aussi potentiellement, effectivement, de le préciser. En fait, on a beau être féministe, être convaincue, être sûre de ses valeurs et de on n'est jamais aussi à l'abri d'une situation même de violence, en fait. On n'est jamais à l'abri d'une situation d'emprise. Et en fait, le système patriarcal entier est organisé de telle sorte que les femmes puissent se retrouver aussi dans des situations de vulnérabilité qui les exposent à des violences. Et ça, peu importe le parcours... féministe qu'on a, qu'on soit féministe ou non, ça peut arriver. Donc, le couple hétérosexuel sera et est toujours une potentielle menace à la liberté des femmes parce que intrinsèquement, le couple hétérosexuel est basé sur une domination.
Mmh.
Et ça, on a beau être très féministe, on peut pas changer la structure du monde seule dans son couple.
Alors, on va écouter Clara Isé, Souveraine. Tu l'as.
Tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi d'ailleurs quand elle était en pleurs. Toi tu as aimé un homme passionnément. Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Toi tu voulais être musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit, je suis désolée, mais à de ces malheureux on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oublié, mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter, un air que la nuit en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine. Toi tu es née dans le corps d'un homme, mais depuis toujours tu sens que c'est un décorum. Toi tu as décidé que pour être libre, tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans la nuit s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine.
sur Radio Libertaire et nous sommes en compagnie de Camille L'Extrait. J'ai juste un petit peu hésité pour dire Camille parce que j'ai reçu ta mère à plusieurs reprises. S'appelle Claire L'Extrait et sur le programme, eh ben, je m'étais trompée. Voilà, excuse-moi Camille.
Pas de soucis.
Donc toujours en compagnie de Camille L'Extrait, briser la chaîne misogyne de mère en fille et avec un point d'interrogation et on arrive à un chapitre vivre dans un corps prison. Cette analyse permanente de la possibilité d'agir que font les femmes et les minorités de genre est le stigmate d'un panoptisme patriarcal. Alors, je voudrais que tu reprennes cette notion de panoptisme patriarcal.
Absolument. Alors déjà, peut-être pour expliquer ce qu'est le panoptisme, le panopticon. Le panopticon, c'est... une forme de prison qui a été conceptualisée où, en fait, avec un jeu de lumière, les prisonniers ne voient jamais s'ils sont observés. Donc, quelque part, ils intériorisent la surveillance. Et, en fait, les statistiques montraient qu'il y avait un nombre d'incidents bien moins important parce que, donc voilà, ne sachant jamais si quelqu'un était en train de les regarder ou non, les prisonniers partaient du principe qu'ils étaient systématiquement épiés et donc ne commettaient plus d'incidents. Et Foucault reprend un peu cette idée du panopticon et le théorise en panoptisme pour expliquer dans nos sociétés, notre société de la surveillance. Comment est-ce qu'on a développé des modèles d'autosurveillance, donc l'open space par exemple, les bureaux qui sont plus fermés et cloisonnés, mais des grands bancs avec plein de personnes où en fait on a toujours dans un coin de la tête que potentiellement quelqu'un peut voir ce qu'il y a sur notre écran, donc on va être plus attentif et on va moins avoir tendance à aller regarder une vidéo ou à aller sur les réseaux sociaux, sur notre ordinateur au travail. Donc un peu cette surveillance de tous par tous à tout moment. On a la même chose avec la RATP qui a fait des trams de métro maintenant où il n'y a plus de séparation entre. Comme ça, on peut voir vraiment d'un bout de métro à l'autre. Et puis ces messages qu'on entend dans le métro, attentifs ensemble pour la sécurité de tous. Donc où on voit cette responsabilisation dans la surveillance et cette société qui va vraiment mettre en avant le fait que on doit tous un peu être les flics les uns des autres. Et
alors que dans le panoptique, c'était pas ça.
Non, il y avait les surveillés.
Voilà, il y avait les surveillants qui étaient sur une tour centrale, qui eux pouvaient tout voir. C'est ça. Les surveillés qui eux
ne voyaient rien.
Voilà. Là, dans le métro, c'est ce que tu viens de dire. On se surveille les uns les autres. Et dans l'open space, pareil, on se surveille les uns les autres.
Exactement. En fait, on
n'a même plus besoin d'avoir un surveillant.
Exactement. On a complètement délégué la surveillance. Et du coup, dans le patriarcat, finalement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que donc on n'a plus cette prison matérielle et ces cellules matérielles, mais on sait quand on est une femme, une minorité de genre, que par notre corps, par le fait de faire corps dans l'espace public, en fait quelque part, ça nous met une étiquette, ça nous met dans une cellule, parce que les autres vont très bien identifier. Qui on est, et donc va venir cette surveillance et cette intériorisation de la surveillance. Donc en fait, être enfermé dans ce corps prison, c'est avoir tellement pris l'habitude par la sanction sociale, par les récits, par les imaginaires, par toutes les productions visuelles, filmiques, etc., du rôle des femmes et de la sanction qui pèse sur les femmes qui ne rentreraient pas dans le rôle qu'on leur a vers lequel on les a orientées, que on va systématiquement être sa propre vigie, son propre surveillant, et on va adapter son comportement sans même nécessairement s'en rendre compte pour éviter de subir la violence du patriarcat. Donc il y a vraiment cette idée d'enfermer dans le corps les femmes, les minorités de genre, et en fait de déléguer finalement le fait qu'elles obtempèrent au patriarcat en n'ayant même plus nécessairement besoin d'agir. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup vu dans les collages. Parce que quand j'étais arrivée dans le mouvement, moi, le premier soir où je vais coller, je me dis, je tire un trait sur potentiellement une carrière où il faudrait un casier judiciaire vide. Je tire un trait sur ma vie de personnes bien rangées, et en fait il s'est jamais rien passé. J'ai jamais été condamnée, déférée, jamais été devant un tribunal.
Il y a eu très peu de condamnations, hein.
Il y a eu,
c'était les 68 euros à payer.
C'était des amendes, mais voilà. Des amendes pour mauvais stationnement.
Voilà.
C'est-à-dire que des choses assez anecdotiques. Il y a eu un seul procès à Nantes qui, pour le coup, était assez symbolique, mais c'est les seules qui vraiment, elles, ont subi cette sanction. Mais sinon, pour le reste des collèges, pas du tout. Et donc, à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, potentiellement, j'avais adapté mon comportement à une peur que le patriarcat m'avait insufflée, et que j'agissais moi-même comme avec une autocensure permanente. Mais c'était la même chose dans mes prises de parole, dans mes manières de me positionner dans l'espace public, dans ce que j'osais ou j'osais pas faire. Et ça a été un peu un déclic de me dire, mais en fait, je fais corps avec le patriarcat fait corps avec moi, et quelque part, par tous mes faits et gestes, je le fais vivre je le reproduis. Et donc l'idée, c'était de déconstruire ça sans me culpabiliser non plus, hein, parce que j'estime que personne n'est responsable de subir le patriarcat et de l'incarner dans sa chair. Mais il y avait vraiment cette idée de, quelque part, le fait de soi-même, dans sa vie, rendre matériel le patriarcat qui correspondait bien au concept de panoptisme et que je trouvais assez intéressant à évoquer dans le livre, pour faire comprendre comment, parce que c'est plus ça la deuxième partie du livre, comment les femmes peuvent, et les minorités de genre aussi d'ailleurs, peuvent être le bourreau d'elles-mêmes. C'est-à-dire à un moment d'être tellement conditionnées qu'elles-mêmes vont s'infliger des traitements patriarcaux et comment est-ce que tout ça, ça fait partie du patriarcat? Comment on peut que ça ne nous rend coupable de rien, mais comment c'est important à déconstruire, à conscientiser et à verbaliser?
Oui, alors on revient sur une autre partie, parce que là tu viens de dire que chaque individu va s'édicter des règles pour éviter de subir les violences du patriarcat. Mais en même temps, s'édicte des règles pour accepter les violences du patriarcat.
Hein,
on est dans ces deux éléments-là. Et je voudrais citer ce que tu as écrit dans un chapitre qui s'appelle « Une identité condamnée », où tu dis « Les femmes qui aiment tant s'épiler et qui le font pour elles sont très nombreuses à avoir arrêté pendant le confinement en France en mars 2020. » Cet endoctrinement patriarcal pousse les femmes à adopter des comportements au mieux ridicules, au pire dangereux. Et c'est là que j'arrive, hein. C'est sur le danger. Avant d'aller danser, certaines utilisent une technique révolutionnaire. Alors, moi j'aurais mis peut-être des guillemets, mais voilà. Bien que très peu recommandée par les ophtalmologues, pour avoir le regard brillant, elles se mettent du citron dans les yeux. En Angleterre ou encore en Écosse, lorsqu'elles portent des tenues sexy l'hiver pour aller en boîte, elles s'appliquent des crèmes chauffantes afin de ne pas ressentir le froid. Pour correspondre à l'image de princesse délicate, elles se retiennent de péter à tel point qu'elles se retrouvent à l'hôpital. Bon, je ne vais pas continuer, hein, mais on voit des choses à la fois ridicules et dangereuses. C'est-à-dire, ce sont des règles qu'on s'édicte. Personne n'a dit qu'il fallait s'épiler. Enfin, c'est que le patriarcat. On n'est pas obligé de l'entendre. Hein, personne n'a dit qu'il fallait avoir le regard brillant ou se mettre en mini-jupe quand il fait très très froid. Hein. Voilà. Mais on s'édicte des règles qui, à la limite, deviennent
dangereuses.
Et donc, c'est pas pour échapper aux violences du patriarcat c'est pour rentrer dans cette violence.
Je pense qu'il y a une... comment dire ? C'est tellement dur d'être... une femme dans le sens construction genrée de ce qu'est une femme. C'est-à-dire que être un homme dans le sens construction genrée de ce qu'est un homme, c'est ce qu'on nous fait croire comme étant la chose la plus naturelle pour un homme. Faut que ça sente la transpire, faut que
c'est aussi difficile.
Oui, mais dans l'idée, c'est
s'il veut pas être viril.
Voilà, il faut rentrer dans ce truc viril de très à l'état de nature, quoi. Donc l'homme qui sent la transpire, qui se rase pas, etc. Ça, c'est un homme, un vrai. Être une femme dans le construit social, c'est en fait c'est l'anti-nature. C'est-à-dire que il faut donc pas avoir de poils. Bon, faut avoir un regard de biche en permanence, donc potentiellement mascara eyeliner que je porte aujourd'hui. il faut mettre des talons. Il faut mettre une gaine pour paraître plus mince, paraître plus jeune. Bon bref, donc en fait pas paraître soi du tout. Et je pense que c'est un peu la douleur de beaucoup, où en fait on nous fait tellement croire que pour toutes les autres c'est facile et c'est une évidence et qu'elles sont comme ça, que si soi-même on ne l'est pas, quelque part le problème c'est nous en fait. C'est tellement un système qui est évident et qu'on nous présente comme étant l'état des choses naturel, que si on n'arrive pas à rentrer dans ce moule-là, qu'on se rend compte les difficultés que c'est, mais en fait, toutes les femmes s'en rendent compte, alors on va s'infliger des traitements mais proches de la torture, hein, parce que moi, proches de la torture, tortures qui sont plus graves, mais se mettre du citron dans les yeux, c'est quand même extrêmement douloureux et peu recommandé. Et donc, il y a vraiment, je pense que ça témoigne aussi un peu de cette détresse quelque part d'être acceptée, d'être validée par ce système patriarcal qui conduit à adopter des comportements qui sont à l'inverse de l'instinct de survie. Parce que quand on a un instinct de survie et qu'il fait moins 10 dehors, on ne sort pas en mini-jupe et en talons ouverts. On sort pas, en fait, déjà tout court. Et si on sort...
C'est avec un pantalon.
Exactement.
Et puis avec des grosses bottes.
Exactement. Donc on sort en doudoune, etc. Donc je pense que... Enfin, pour moi, quand j'ai écrit ce livre, c'est une partie qui m'a aussi beaucoup touchée de faire toutes ces recherches là-dessus, parce que, en fait, je trouve que ça témoigne tellement de la détresse des femmes, de cette solitude, de cette impossibilité de rentrer dans ce petit moule étriqué du patriarcat où il y en a plein qui sont prêtes à faire, à dépenser des milliers, à faire tout et n'importe quoi pour essayer un jour d'être cette femme idéale. Ça témoigne en fait de toute cette quête complètement vaine et de toute cette douleur qui vient du fait que en fait c'est une création du patriarcat, la femme. Elle n'existe pas.
Bien sûr. Et du coup, on va peut-être aller vers comment en sortir.
Absolument.
Ça, c'est la troisième partie de ton propos, hein. C'est-à-dire, une fois que tu viens de dire que le bourreau est à l'intérieur, hein, aujourd'hui, reprendre l'espace public, reprendre... alors, tu expliques plusieurs espaces. Tu peux revenir là-dessus. Il y a l'espace public, mais il y a l'espace de la parole, il y a l'espace différents espaces. Mm-hmm. Peut-être que... et puis, il y a un autre espace, c'est l'espace collectif.
Absolument.
C'est celui-là, peut-être, qui est la seule survie possible des femmes.
Absolument. Je pense que, pour le coup... c'est quelque chose que les mouvements féministes ont toujours fait, créer du collectif, recréer du lien, créer des communautés en fait, d'entraide, de soutien, de compréhension. Il y a une lutte du patriarcat contre ces groupes-là, on l'évoquait très rapidement au début sur l'impossibilité du Girls Club. En fait, tant que le Girls Club c'est une réunion Tupperware et qu'il n'y a pas de pouvoir dedans, qu'il n'y a pas de remise en cause du patriarcat, on autorise les femmes à se vendre des Tupperware entre elles. Dès que c'est des groupes où on parle de politique sans hommes, alors là, sans hommes cisgenre, hétéro, blanc, sans Macron. Là, tout d'un coup,
On le voit bien dans toutes les organisations, que ce soit syndicales, politiques, universitaires, enfin tout ça. Dès qu'on veut faire une commission non mixte, eh bien, là, c'est... mais pourquoi ? C'est du séparatisme. Ouais. Alors que nous vivons dans une société... qui accepte et qui pousse même à ce qu'il y ait des lieux non mixtes. Il y a des cafés qui sont non mixtes.
Mais il y a des clubs, voilà. Les Rotary Club, les Lions Club.
Il y a des clubs, il y a des assemblées politiques. ou d'avoir une robe un peu colorée, on se fait remarquer. Hein, voilà.
On prend des cris de poule à l'Assemblée nationale. Hein,
voilà. Donc, il y a des lieux non mixtes entre hommes et puis entre femmes. Bah, c'est le féminisme qui crée ces lieux collectifs.
Et c'est, je pense, la vraie révolution. Je trouve que c'est ce que je dis dans cette troisième partie de livre, il y a un féminisme vraiment, je dirais, néolibéral et capitaliste. On en parlait très rapidement aussi avant sur le fait que la libération des femmes passerait par la consommation, le développement personnel, etc. En fait, ça ne peut passer que par la lutte collective. C'est-à-dire qu'on est sur un problème qui est systémique, qui est global et qui fait racine de notre société. Donc pour déconstruire ça, se dire que parce qu'on a pris des cours pour que dans son couple il y ait une meilleure répartition des tâches, on a révolutionné le patriarcat, non. Alors c'est très bien si on le fait, c'est une charge qui repose encore sur les femmes, mais c'est très bien si dans son quotidien on trouve des manières de contourner quelque part le patriarcat, d'améliorer ses conditions de vie, mais très bien, mais qu'on ne nous fasse pas croire que c'est la révolution et que ça change quelque chose, parce que ça ne change que en surface la vie d'une personne.
Et puis ça demande beaucoup d'efforts.
Beaucoup d'efforts.
Et toujours à la même.
Absolument. Donc c'est une évidence que la lutte, elle doit être collective, qu'elle doit être par une construction d'un autre idéal, d'un autre monde, par la proposition d'alternatives, et ce dans tous les espaces, donc que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est proposer aussi des récits collectifs alternatifs. Et c'est extrêmement important de concevoir cette lutte comme ne pouvant être que en interaction, en fait, avec les autres, parce que, enfin, c'est un des slogans de base du féminisme. Déjà, c'est ne me libère pas, je m'en charge, mais je m'en charge pas seule, en fait. Et c'est solidarité avec les femmes du monde entier. En fait, c'est cette idée que tous nos destins sont liés intrinsèquement et que on le voit avec l'impossibilité du Girls Club. Quand il y a une femme qui arrive à un poste de pouvoir, en fait, la plupart du temps, ça ne change strictement rien sur les politiques pour favoriser les carrières des femmes et sur les personnes qui l'entourent, parce que c'est impossible pour cette femme qui est la seule à cet endroit-là d'imposer des femmes, parce que là, du coup, ça mettrait tous les regards sur elle, on la brime complètement. Donc en fait, il faut pas se dire on va essayer de monter petit à petit individuellement dans ce système-là, il faut s'en extraire, hein, il faut créer autre chose, des alternatives collectif. Il y a plein de groupes féministes aujourd'hui qui sont extrêmement puissants là-dedans, qui montrent les ressources du collectif et qui refusent complètement cette idée ultra-individualiste du développement personnel, qui ferait croire que finalement le patriarcat, et c'est ça l'idée au moins de la conclusion de ce livre aussi, le patriarcat il n'est pas dans nos têtes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire une thérapie et demain, le patriarcat, il aura disparu de mon cerveau. Non, le patriarcat, il est partout, même dans nos cerveaux. Mais c'est important de voir les choses de manière, vraiment globale.
Et tu as parlé de solidarité internationale. On peut rajouter aussi de solidarité intergénérationnelle.
Absolument.
Hein, parce que aujourd'hui, les femmes qui arrivent à l'âge du troisième ou du quatrième âge ont vécu aussi le féminisme, puisque c'est elles qui l'ont développé, qui l'ont porté dans les années 70. Et donc, moi j'apprécie beaucoup la façon dont tu as écrit, la façon dont tu t'exprimes, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas que tu puises aussi dans ce que les femmes ont créé avant toi, ont pensé avant toi.
Oui, voilà. Absolument, je pense qu'il y a une continuité.
Et qu'il y a un continuum, sinon, si c'est recommencé sans arrêt. Alors là, c'est Sisyphe.
Oui, absolument.
Donc, voilà, c'est ça peut-être le message le plus fort qui sort de ton livre, c'est que ce que tu écris là, nous l'avons déjà vécu, nous qui sommes plus âgés, on l'a déjà vécu, mais on ne s'oppose pas. Au contraire.
Non, bien sûr.
Il faut qu'on puisse... s'entendre, se comprendre, même si le vocabulaire évolue un peu, même si les pratiques évoluent un peu. Moi, j'avais adoré l'histoire du collage parce que j'ai collé des affiches pendant je sais pas combien d'années.
Et là, tout d'un coup, c'était la mode.
Voilà. Et on était un peu ringardes à coller nos affiches. Et puis là, mais c'était d'une simplicité en plus pour donner un message clair et collectif.
Oui, bien sûr. Les collages, voilà. Pour le coup, et moi, c'est le début de ma vraie aventure féministe. En fait, mon aventure féministe, elle a toujours été collective et elle le sera toujours. Je pense que c'est extrêmement important pour créer un monde alternatif de ne pas rentrer justement dans ce que le patriarcat est, c'est-à-dire une guerre d'ego, une guerre d'hommes. Et je pense que le féminisme doit être tout l'inverse de ça. Et doit mettre au centre, au cœur, ce collectif, cette bienveillance, cette inclusion de toutes et tous, cet amour du débat, de la compréhension de l'autre. Enfin,
voilà. Et de l'autre.
Oui.
L'amour de l'autre,
c'est ça.
Qui est différent, bien sûr, mais qui nous apporte autant. Voilà. Ben
merci beaucoup.
Merci pour ce partage. Et puis, on va écouter Daphné de Villiers, qu'on avait invitée ici et qu'on a appris à connaître, et dans une chanson, puisqu'on ne naît pas femme.
Est-ce que ça vaut pour tous les gamins? Tous ces jouets qu'on met dans vos petites mains, petit à petit, creusent vos chemins. Pour les petites filles, ce sera femme fragile. Pour les petits garçons, bien sûr, homme viril. Pour toi, mon Léon, il n'y aura pas de poupon. Il semble que tu sois condamné au camion. Sauver le monde, à te battre et vaincre, danser et regard fier, inspirant la crainte. Eh ben mon loupio, si c'est ça la vie, à quoi te préparent tes jouets chéris? À devenir un homme que rien ne désarme, un mec et un vrai, sans jamais une arme. Alors c'est certain, je m'inscris en et à toute allure, change tes cadeaux. Puisqu'on ne naît pas femme et qu'on le devient, est-ce que ça vaut pour tous les gamins? Tous ces jouets qu'on met dans vos petites mains, petit à petit, creuse vos chemins. Et toi, je vois que le genre des jouets vous intéresse pas. Y a bien que les adultes pour conditionner dès votre plus jeune âge les inégalités. Quand tu seras grand, je voudrais juste que t'aies le choix, devenu jeune papa, de rester chez toi, de vous partager un congé parental, qu'un homme au foyer semble enfin banal. Alors il est temps d'offrir des poupons et dès à présent à nos petits garçons. Puisqu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient, est-ce que ça vaut pour tous les gamins? Tous ces jouets qu'on met dans vos petites mains, petit à petit, creusent vos chemins.
Voilà, on vient d'écouter Daphné Devilliers, « On ne naît pas femme ». On le devient, on ne naît pas garçon, on le devient aussi, bien évidemment. Et c'était pour clore cet entretien avec Camille L'Extrait, Briser la chaîne, misogyne de mère en fille, aux éditions Le Duc. Merci Camille.
Merci beaucoup.
Et puis à ton prochain livre, ben, tu reviendras nous voir. J'espère bien que tu en feras d'autres. Voilà, on passe à la dernière partie de l'émission. Avec des infos, des communiqués, des rendez-vous. Et à l'Institut Émilie du Châtelet, le vendredi 31, donc c'est vendredi qui vient, là, de 14h à 16h30, Ariette Gauthier, professeure émérite de sociologie, parlera des tortures procréatives et résistances des Antilles esclavagistes aux années 2020. C'est un sujet important parce que, évidemment, ça utilise les récits du XVIIIe siècle avec des enquêtes de terrain, tant quantitatives que qualitatives en Guadeloupe et au Mexique, pour comprendre comment ces tortures sont imposées, mais aussi combattues, voire empêchées. Et dans une période où on nous parle de réarmement démographique et d'une remontée du refus de l'avortement aux États-Unis, par exemple, eh bien, c'est une question en termes de torture procréative et résistance des anti-esclavagistes aux années 2020 qui peut être intéressante. Ça se passe au CNAM de 14h à 16h30 à l'amphithéâtre Fabry Perrault, 292 rue Saint-Martin, dans le 3e. Et puis, quelque chose aussi d'important, c'est Le Pen, la torture dans la République, conférence débat au Maltais Rouge, 40 rue de Malte, dans le 11e arrondissement, c'est près de République. C'est le 6 février à 18h. L'entrée est libre et la conférence est introduite par Nils Anderson, ancien éditeur, et Fabrice Risse-Petit. Petit historien. C'est organisé par Agir contre le colonialisme aujourd'hui, par les anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre, et par l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique, et par aussi Histoire coloniale et postcoloniale. Nous avions accueilli Circé en concert. Nous avions accueilli Circé ici dans l'émission au mois de janvier, tout début janvier. Et là, elle est en concert demain soir au théâtre Aleph à 20h à Ivry-sur-Seine. Et elle sera en concert le samedi 31 à 20h45 à l'espace culturel Robert Doisneau de Meudon. On va écouter Circé dans AKS.
Desconsolado, las sabatas penjada col y descaus din la pulse estranjo. casa la nuoc. Er un vengut scluse cu cion vestit, d'altres avali fuciam un satarro. Er un razims de Dieu, per d'altres mas, le babundin lurir d'au soleil. Io bieges de parat pesa briga entre l'ubac celus e sa pelmusa. Io bieges de teu la prapara sa carodas la gremas de la nioci. Din sastenaias sunt ventre ror ruzigat dau talen lu ben destiu e se cabola caro e la malur i mangio malucor e gest de gust per lusa consula la paraula esti gelus mult de ferre cordil da fuet mai sa de can sen rude giabo a sa scambas desnudos un te can nessun per tutto la terra per un pas mai che pauro cardunia se cade stiu dell'autun de rabado che ruben di bern Bejo sen fi
Regard satellite du 29 janvier au 9 février, et donc ça se tient au cinéma L'Écran à Saint-Denis. Espace de résistance et de célébration de voix audacieuses qui enrichissent la diversité des formes et des récits cinématographiques. Ce sont des histoires vibrantes, donc, de périphérie brésilienne, d'Adirley Queiroz, Juana Pimenta et Lincoln Pericles. Hommage également à Sara Maldoror, rétrospective intégrale de ses films au Centre Pompidou, là, du 3 au 7 avril. Carlotta Film édite un coffret de ses œuvres restaurées chez Avant-Scène Cinéma, qui consacre aussi un numéro, pardon, c'est Avant-Scène Cinéma, qui consacre un numéro au film Sambizanga. Regard satellite propose une rétrospective des influences et collaborations de Sara Maldoror. L'occasion de voir tous ses engagements, surréalisme, négritude, panafricanisme, féminisme, communisme. Hommage le mercredi 5 février à 19h30 dans la grande salle du cinéma, rebaptisée salle Sara Maldoror, en présence de ses deux filles, et projection de Fogo, l'île de feu, suivie de Sara Maldoror ou la nostalgie de l'utopie.
Voilà, Sara Maldoror, vous pouvez aller aussi sur Internet et écouter sa leçon de cinéma qu'elle avait donnée au Festival international de films de femmes de Créteil, interviewé par Jackie Buet. C'est lumineux, lumineux. C'est vraiment... moi, j'aime beaucoup cette femme qui, évidemment, est décédée. Mais Sambi Sangha, c'est son œuvre majeure. Mais elle en a fait plein d'autres. Féministe, hein, féministe dans son cinéma. Alors, on continue avec le 1er février, il y a une mobilisation contre les mutilations sexuelles féminines et le GAMS a choisi les mutilations sexuelles féminines en Asie pour cette année. Et ça sera de 14h à 19h à l'AGK, 177 rue de Charonne, dans le 11e. Il est dit que l'information éclaire, l'action transforme. Le 5 février, on vous invite à un rassemblement féministe devant le tribunal judiciaire de Paris en riposte à la procédure Bayon qui vise l'AVFT. L'AVFT comparée en justice pour atteinte à la vie privée de Benjamin Amar, ex-dirigeant syndical CGT, mis en cause par une femme pour des viols avec torture et actes de barbarie. C'est un dirigeant, ex-dirigeant syndical. Hein. Voilà. Le 5 février à 14h30, devant la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, l'AVFT sera représentée par Marjolaine Vignola pour répondre aux attaques de Benjamin Amar et se démarquer des méthodes d'action d'un autre cadre de la CGT, Gérald Lecor, assigné en justice également. Voilà, donc je vous invite vraiment à rejoindre ce rassemblement. C'est important pour l'AVFT. Je ne vais pas tout vous lire, mais... en fait, Gérald Lecor a aussi fait des conneries, et c'est pour ça qu'il est, y compris, attaqué par Benjamin Amar, parce que la VFT avait envoyé une lettre à Philippe Martinez hein, pour dénoncer ce dirigeant syndical CGT. Et Gérald Lecor a pris la décision unilatérale de diffuser ce courrier sans prévenir évidemment ni la dame en question qui avait été victime, je le redis bien, viol avec torture et acte de barbarie, hein, ni l'accord de la VFT. Hein, donc, il est attaqué au même titre que la VFT, mais la VFT se démarque de ce Gérald Lecor parce que c'est pas du tout des pratiques correctes. On ne diffuse pas un courrier sans demander l'autorisation aux personnes concernées. Voilà. Donc moi j'y serai, je vous raconterai comment tout ça se passe. Et on va continuer avec les informations.
Les rencontres à Publico.
Alors, ben justement, il me manque un petit bout de feuille. Je ne sais pas où c'est. Bon, tant pis. On devait passer un petit son sur les regards satellites, mais c'est pas grave, on le passe pas. On annonce quand même qu'il y a des publications, des éditions du Monde Libertaire. C'est un nouveau responsable des éditions qui a décidé de faire des livres à 10 euros. Donc, petit budget, mais des livres fort intéressants. On va presque penser que plus le budget est petit, plus les livres sont intéressants, mais c'est le cas en tout cas. Là vient de sortir Guerre à la guerre de Pierre Sommermeyer, Émilie Lamotte, Vivre en anarchiste de Marie-Pierre Tardif et de Sylvain Vagnon, La guerre contre les femmes contre la guerre que j'ai écrit moi-même, Hélène Hernandez, L'éducation intégrale de Paul Robin, Ce sont des textes sélectionnés, expliqués et commentés par Hugues Lenoir. Et puis « Terre sainte, guerre sans fin, la création de l'État d'Israël en Palestine, sionisme et utopie ». Et ça, c'est un livre rédigé par le réseau Macno. Le temps. Alors, la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Oberkampf, aux Filles du Calvaire. On rappelle que la librairie est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h30, du mardi au dimanche, et le samedi à partir de 10h.
Et donc, pour les rencontres, le vendredi 31 janvier à 19h, Evangelismos, un squat à Héraclion, en Crète, depuis 2002. Et donc, il y aura une rencontre avec des membres des collectifs qui le constituent. Le dimanche 2 février à 6h, livre Segui, Olinda, de Jean-Michel Rodrigo. Et là, c'est une rencontre-débat. Le mercredi 19 février à 20h, Ciné-Commune, projection-débat, L'Arbre immortel, la résistance de Yerka, de Kazim Kizil. Et ce sera présenté par Sybille Sekmen. Et ensuite, enfin, pour finir, le samedi 22 février à 16h, Carnet de guerre, la défaite du colonialisme russe serait la victoire de tous les peuples, de Jean-Marc Royer. Et là, c'est aussi une rencontre débat à l'initiative du groupe Gaston Leval de la Fédération anarchiste.
Voilà, et on va terminer avec le programme de la semaine prochaine. Sylvie ne sera pas là. Voilà, elle prend des petites vacances, je crois.
Bah, elle a bien raison, et elles sont méritées. Et
oui, puis, oui, une petite semaine à la montagne.
À la montagne, bon, on te souhaite de bonnes vacances à la montagne. Et c'est Agnès qui nous tiendra compagnie, donc. Alors, de Ève à Philomène, sans oublier les autres, eh bien, ça sera une rediffusion. On rediffusera l'histoire, le portrait de Philomène.
La grand-mère, cette chef arrière, de gare.
Cette arrière-grand-mère, ah, chef arrière. De station. Très exactement.
Gare de station. Gare de station.
Ah oui, garde de station. Voilà. Donc, rediffusion du portrait de Philomène. Et puis après, nous recevrons Sylvie Chaperon et Emmanuel Retailleau pour un livre qu'elles ont coécrit avec deux autres autrices, avec Catherine Deschamps et avec Christelle Tarot. Christelle Tarot, vous savez, c'est l'histoire mondiale des féminicides qu'elle avait dirigée. Et bien là, c'est l'histoire des sexualités en France, 19e et 21e siècle. Et c'est aux éditions Armand Collin. C'est sorti à la fin de l'année 2024. Cet ouvrage présente une synthèse accessible sur l'histoire de la sexualité en France, histoire qui se déroule selon les scansions affectant l'ensemble de la société, révolution, guerre, période de paix et de prospérité, qui ont eu en effet des impacts différents sur les sexualités. Donc, c'est une histoire de mouvement de balancier avec quand même des avancées constantes, mais très discrètes. Voilà pour cette histoire très importante. C'est un volume très important, mais c'est une histoire aussi passionnante des sexualités en France, 19e et 20e, 21e siècle. Eh bien, on va se dire bonsoir
et féministe tant qu'il le faudra.
On écoute Estelle et Sylvestre, l'hymne des femmes.
Ciao, ciao.
À la semaine prochaine. Et là, il n'y a personne derrière nous. Il va y avoir la bande sans fin. Mais on vous souhaite une très bonne soirée.
Nec femine, nec vitae, 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 nec fem Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire. Debout, femmes en rage, et détruisons nos cages. Debout, 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 debout.